Chapitre 2. Ce n'était pas seulement aux élèves d'Hélène qu'on en voulait, c'était à elle aussi. Le jeudi qui avait suivi la rentrée, un groupe d'élèves des sœurs était venu jouer devant son école. Elles étaient une vingtaine à peu près, sans personne pour les surveiller. Tout d'abord, elles avaient commencé à jouer et courir bruyamment. Puis au milieu de leurs cris confus, comme ceux qui seraient montés d'une volière d'oiseaux tapageurs, un nom avait frappé l'oreille d'Hélène. « Courtemer !» Mais cela avait été si vague qu'elle avait cru qu'elle se trompait. C'était dans l'esprit qu'elle avait ce nom de Courtemer, ce n'était pas dans les oreilles. Mais bientôt, elle n'avait pas pu se faire illusion. Une voix argentine criait « Courtemer, père et fils !» Non seulement Hélène entendait ce cri, mais encore, elle voyait celle qui le vociférait avec effort, la tête levée vers sa fenêtre, son petit visage rougi, sa bouche ouverte en eau. Assurément, cet enfant ne comprenait ni ce qu'elle disait, ni ce qu'elle faisait. Elle obéissait à une consigne qui lui avait été donnée. Et quoi? On osait recourir à de pareils moyens contre elle? On osait se servir d'enfant? Qu'on n'eût pas pitié d'elle? Cela, elle le comprenait. Mais était-il possible qu'on n'eût pas pitié de ces petites filles? Bientôt, ce ne fut plus un cri isolé qui arriva jusqu'à elle. Ce fut un cœur, sur un air de cantique. Les petites filles qui étaient réunies défilaient en procession devant l'école, chantant tout ensemble « Courtemer, père et fils, Courtemer, père et fils, Courtemer, père et fils !» Puis, quand elles furent lasses de toujours chanter le même air, elles en changèrent et répétèrent leur Courtemer, père et fils en complis. Et par sa fenêtre, Hélène voyait les habitants de la place, qui étaient sortis sur leurs pas de porte, regarder cette ronde en plaisantant sans que personne eût l'idée de les faire taire, pas même Fillette, qui se tenait devant son auberge, une queue de billard à la main. La première pensée d'Hélène avait été de se plaindre au maire. Cependant, après réflexion, elle n'en fit rien et voulut attendre. Peut-être cela ne se répéterait-il pas. Elle avait ouvert une classe d'adultes qu'elle faisait tous les soirs, de 7 à 9 heures, pour les grandes filles du pays. Et bien que, pour cette classe, elle eût rencontré les mêmes difficultés que pour celles des petites, elle avait cependant réuni une douzaine d'élèves qui, justement parce qu'elles avaient eu le courage de venir, étaient de bonnes élèves attentives et appliquées, désireuses de travailler. Le lendemain de ce charivari, vers 8 heures du soir, par une nuit sombre et pluvieuse, comme les élèves étaient en train d'écrire un devoir que leur dictait Hélène, tout à coup les vitres du côté de la place avaient été brisées et les morceaux de verre étaient tombés avec des cailloux au milieu de la classe. Tout d'abord, il y avait eu une sorte de panique. Mais bientôt, l'on avait compris ce qui venait de se passer. C'était tout simplement une volée de pierres qui avait été jetée dans les carreaux. Cette fois, Hélène ne pouvait pas garder le silence. Il y avait un délit, les vitres brisées, et puis les élèves qui avaient eu peur, surtout d'eux qui avaient reçu des légères blessures, étaient exaspérés. Le lendemain matin, le maire avait commencé une enquête qui, naturellement, n'avait point été limitée au jet de pierres. Il avait fallu, malgré la répugnance d'Hélène, remonter au charivari, et si les recherches n'avaient produit aucun résultat pour les pierres, il n'en avait pas été de même pour le charivari. On avait vu celles qui étaient venues chanter devant l'école. On les avait presque toutes reconnues, et Fillette, qui était désarmée lorsqu'il riait, avait repris ses armes lorsqu'il avait fini de rire, et surtout après qu'il avait reçu une algarade de son maire sur son indifférence coupable, qui était presque de la complicité. On avait envoyé chercher les parents et les enfants par le garde champêtre. On les avait interrogés les uns et les autres. Et bien qu'il eût été impossible d'apprendre d'une façon précise qui avait donné aux enfants l'idée de venir crier sous les fenêtres de l'institutrice Courtemer, père et fils, la peur que le maire avait su inspirer avait suffi pour que cette scène ne se renouvelât pas. On voulait bien mortifier l'institutrice, mais à condition de ne pas se faire prendre. Ces deux affaires ne s'étaient point passées sans soulever des querelles dans Ivranche, et chacun avait pris parti selon ses opinions et ses relations, on s'était disputé, injurié, fâché. Les enfants, naturellement, s'en étaient mêlés, non seulement les filles, mais encore les garçons, qui s'étaient rangés du côté de leurs sœurs ou de leurs camarades, et tandis que les parents se contentaient de batailler avec la langue, les enfants avaient bataillé avec les mains. En sortant des classes, on s'était jeté des pierres, et ceux des enfants qui demeuraient au loin et qui, pour rentrer chez eux, avaient des champs et des bois à traverser, avaient vidé leurs querelles à coups de poing ou à coups de griffe dans les chemins déserts où personne ne pouvait les déranger. Il y avait eu des cheveux arrachés, des vêtements déchirés, des yeux pochés. À qui la faute? On s'était accusés les uns les autres. C'était la faute des sœurs et de l'abbé Périchard qui avait tout mené. Il y en avait même qui croyaient avoir vu la sœur Philogone jeter des pierres. Sans doute, ils n'étaient pas sûrs de l'avoir bien reconnue. Dans la nuit, ça se comprend, n'est-ce pas? Mais ça ne pouvait être qu'elle. C'était la faute de l'institutrice qui, furieuse du charivari qu'on lui avait donné, avait inventé de casser ses carreaux pour exciter le maire. Si on ne l'accusait pas tout à fait de les avoir cassés elle-même, il s'en fallait de peu, et seulement parce que la médisance est un péché. Mais enfin, ces éclabaudages n'avaient point apaisé les enfants, qui, entendant chaque jour leurs parents parler de ces querelles, s'étaient de plus en plus montés les uns contre les autres. Et les choses en étaient venues à ce point que le maire avait été obligé de mettre en mouvement la force publique dont il pouvait disposer, c'est-à-dire son garde champêtre, qui deux fois par jour, à la sortie de classe du matin et à celle du soir, avait dû, revêtu de ses insignes, se poster en faction à moitié chemin entre l'école communale et celle des sœurs, de manière à s'interposer entre les combattants. Puis, comme tout lui était prétexte à rédaction, il avait profité de ses désordres pour rédiger une proclamation à ses administrés dans laquelle, après un chaleureux appel à la concorde, il avait dit en belles phrases que, répondant de l'ordre et de la sécurité publique, il avait donné des instructions pour qu'on sévit rigoureusement contre les perturbateurs, quels qu'ils fussent. Malheureusement, ce « quels qu'ils fussent » avait tout gâté. Quels qu'ils fussent, cela bien certainement ne pouvait s'appliquer qu'aux gens haut placés. Et quels autres pouvaient viser le maire, si ce n'est le curé, le vicaire, mademoiselle de la Buissonnière, les chères sœurs? Quels qu'ils fussent, cela ne pouvait s'appliquer aux gens de rien, qui envoyaient leurs enfants à l'école communale. C'était donc encore un coup porté par la main de cette institutrice infernale qui avait été envoyée par le diable à Ivranche pour mettre tout à feu et à sang. C'était elle, sûrement, qui avait inspiré au maire ce « quel qu'il fût ». Cependant, au milieu de cette mêlée, Hélène n'avait pas perdu d'autres élèves que la fille du boucher, celle du lourd de voiture et celle du cantonnier. Précisément parce que la lutte était ardente, les parents qui avaient eu le courage d'envoyer leurs enfants à l'école communale avaient persévéré dans leur résolution. Loin d'en perdre, elles en avaient au contraire gagné, et non des élèves à 2 francs par mois, mais des pensionnaires qu'elles devaient nourrir et loger moyennant 30 francs par mois, ce qui pour elles était une fortune. Les deux filles d'un herbager, qui demeurant à plus d'une lieue du centre du village, n'avaient pas voulu que ces filles fissent une pareille course, matin et soir, dans la mauvaise saison. Puis une autre fille de riche paysan, enfin une orpheline, parente de M. Leberrier, que celui-ci avait placée chez son institutrice plutôt par intérêt pour l'institutrice elle-même que pour l'école dont il ne prenait guère souci. Enfin, il en était encore venu une autre, et celle-là, chose extraordinaire, avait quitté l'école des sœurs pour l'école communale, pensionnaire aussi. C'était l'unique enfant d'une mercière qui se disait veuve, mais dont en réalité on n'avait jamais connu le mari et qui menait une existence énigmatique. Honnête, disaient les uns, scandaleuse, disaient les autres, sans qu'on pût se mettre d'accord. Hélène avait hésité à la recevoir, mais la mère avait tant prié, en disant qu'elle voulait soustraire sa fille aux brutalités de la sœur Philogone, qu'elle avait fini par céder, gagnée surtout, séduite par la gentillesse de l'enfant. C'était une vraie charmeuse que cette petite Rosalie, qui tout de suite avait séduit ses camarades et sa maîtresse. Cependant, au bout de peu de jours, réagissant contre son impression première, Hélène s'était demandé si elle était réellement ce qu'elle paraissait être. Ses élèves, jusque-là unis, avaient commencé à se quereller et à se jalouser d'une façon inexplicable. Toutes avaient des griefs les unes contre les autres, toutes se plaignaient de leurs meilleurs amis, devenus leurs ennemis. Cela n'était-il pas étrange? Mais ce qui était étrange aussi, c'était la curiosité de cette petite qui furetait partout et questionnait tout le monde. Il est vrai qu'elle était bavarde comme une pie et qu'elle ne demandait qu'à raconter des histoires sur les sœurs. Si Hélène avait voulu l'écouter, Rosalie ne se serait jamais tue. Mais ce qui, plus que tout cela, l'inquiéta, ce fut une chose mystérieuse qui se passa 3 semaines environ après l'entrée de Rosalie chez elle. C'était un vendredi au dîner. Il servait à ses pensionnaires une soupe aux choux. « Moi, j'en mange pas, » dit Rosalie en repoussant son assiette. « Pourquoi ? Parce qu'elle était la viande et que je fais pas gras le vendredi. »« Allons donc, » s'écria la grand-mère, qui avait fait cette soupe, elle est au beurre.
J'ai vu la viande, dit Rosalie.
On chercha dans la soupière et on trouva un morceau de bœuf.
Qui l'avait mis dans le pot où avaient cuit les choux, cela ne fut pas expliqué.
Mais 3 jours après, dans Ivranche, on ne parlait que des soupes grasses que l'institutrice, par perversité diabolique, faisait manger à ses élèves le vendredi.